Vous écoutez France Culture.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Diffusés tous les jours de 10h à 11h du lundi au vendredi, les nouveaux chemins sont réalisés cette semaine par Midia Portis-Guérin avec Jean-Richard Dufour à la technique et préparés par Geneviève Méric, Mathilde Unger, Géraldine Mosna-Savoie, Marine Boisté, Claire Delnat et Adèle Van Rett. Adèle, dont le journal à 10h50 tous les jours sera destiné toute la semaine au futur bachelier de cette année et qui recevra à ce titre aujourd'hui Fabienne Brugère pour vous parler de philosophie de l'art. Car c'est le début ce lundi, chers auditeurs, d'une semaine sur le bac philo dans les nouveaux chemins de la connaissance, la première des deux semaines que les nouveaux chemins offrent, comme chaque année, aux candidats bacheliers qui, pour l'instant, mais croisons les doigts, par une bizarrerie des programmes et un archaïsme tenace du système éducatif, voient bien souvent cantonner à l'année de terminale leurs études de philosophie. Une semaine où cinq professeurs de terminale, tous excellents bien sûr, prendront le risque, souvent devant leurs propres élèves, de plancher eux-mêmes sur les sujets qu'ils infligent. Une semaine pour vous donner des conseils de méthode, vous montrer de l'intérieur comment s'élabore un plan, vous expliquer comment et pourquoi un exemple banal mais bien étudié fera toujours meilleur effet qu'une citation mal comprise et jetée comme de la poudre aux yeux. Une semaine pour vous montrer qu'on peut en philosophie être en désaccord sans être ennemi, être professeur sans être omniscient et maîtriser l'exercice tout en se laissant surprendre par lui. Une semaine organisée enfin en partenariat avec nos amis, nos semblables, nos frères de Philosophie Magazine, dont le hors-série sur le bac philo gouverné par Charles Pépin est un modèle du genre, à paraître le 21 avril. J'ajoute que cette semaine sera aussi pour nous l'occasion, au gré des dissertations, de réfléchir, pourquoi pas, sur des questions dont l'enjeu dépasse de loin le mur du baccalauréat. À quoi sert l'art? Qu'attendons-nous pour être heureux? Vivre l'instant présent, est-ce une règle de vie satisfaisante? Faut-il être cultivé pour comprendre une œuvre d'art? Peut-on distinguer les rêves de la réalité? Ce sont entre autres les problèmes de la semaine. Une semaine qu'on commence tout de suite avec Alexandre Larguier, qui enseigne en philosophie au lycée Charles Renouvier de Prades et qui, lui aussi, nous parle d'art. À quoi sert l'art? Telle est la question. Bonjour Alexandre Larguier.
Bonjour.
Bonjour, on commence la semaine avec vous, cette semaine de révision du bac philo, donc une tradition désormais au nouveau chemin de la connaissance. Et on commence par un sujet passionnant qui s'intitule « À quoi sert l'art ?». Une question en elle-même difficile et comme toujours face à un tel sujet, il faut s'interroger sur les questions qu'il porte ou ce qu'il sous-entend. Et à quoi sert l'art, me semble-t-il, hein, dites-moi si j'ai raison, est à distinguer de l'art sert-il à quelque chose? En d'autres termes, quand on demande à quoi sert l'art, on présume que l'art a une utilité. Et à partir de là, j'ai envie de vous demander si ça n'est pas contradictoire de penser simultanément le régime de l'utile et le régime de l'art.
Si, c'est évidemment une contradiction. Bien qu'il faille préciser à quel art on se réfère, donc évidemment la question de l'utilité se pose d'ordinaire pour l'art qu'on qualifierait, avec les jugements ineptes qu'on entend sur le sujet, d'inutile. Donc le concept même ou la notion d'utile ou d'inutilité se rapporte spécifiquement à l'œuvre d'art, à l'art au sens de création artistique. Cela dit... Il est vrai que l'art au sens de création artistique ne se mesure pas avec le critère de l'utilité. En même temps, comme nous le verrons, ce sont des notions qui peuvent être connexes.
Alors comment réagit un élève qui tombe sur un tel sujet, qui le choisit, qui a 4 heures pour le traiter, qui se retrouve face à ce sujet, qui doit mobiliser ses connaissances, mais pas d'abord, qui doit d'abord commencer par construire un problème, trouver une accroche, une façon, bref, d'entrer dans son sujet. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez à la place du candidat que vous avez été il y a un certain temps, comme moi?
Oui, bien sûr. Alors ce que je dis à mes élèves, c'est d'abord de ne pas se laisser aller aux connaissances, comme vous l'avez rappelé. Donc éviter à tout prix de se jeter sur le papier, stylo en main, pour y jeter les quelques bribes de cours qu'on craindrait d'oublier. Donc surtout ne pas faire ça, même écarter et papier et stylo pour réfléchir sans aucun objet au sujet lui-même. Parce que le risque sur un sujet comme celui-ci, c'est une notion qui est quand même importante dans le programme, c'est d'avoir tellement de connaissances qu'on passerait à côté de la question, en recourant de manière trop immédiate, trop hâtive aux connaissances.
Alors, comment fait-on donc du coup? Comment est-ce qu'on construit un problème? Rentrons dans le sujet lui-même.
Alors le problème de cette question, c'est d'abord de resserrer le questionnement autour de la création artistique, pour la raison que j'ai indiquée avant. Et pour ce faire, il faut quand même indiquer quel pourrait être l'autre sens du mot « art », c'est-à-dire l'art au sens d'agir correct ou d'habileté, comme l'indique son étymologie « ars » en latin, ou comme le mot était défini, notamment dans le contexte de la Grèce antique. Donc il faut à tout prix resserrer la question, tout en évoquant cet autre sens.
En d'autres termes, quand le mot « art » ici évoqué dans le sujet désigne, et c'est une précision que l'élève doit apporter au début de sa dissertation, désigne ce qu'on a appelé communément le registre des beaux-arts, par exemple, et non pas l'artisanat. Est-ce qu'il faut exclure l'artisanat d'une réflexion ici?
Alors, c'est, dans tous les cas, il faut se poser la question.
Ouais.
Est-ce qu'on doit considérer ou est-ce qu'on doit exclure? Dans la mesure où il est question de l'utilité, et dans la mesure où cette question se pose spécifiquement pour l'art au sens de beaux-arts, que la question porte sur l'art en ce sens-là.
Oui, parce qu'il n'y aurait pas de problème si on était dans l'artisanat, on sait
non.
que c'est utile.
Non, par contre, on ne peut pas évacuer non plus ce sens d'artisanat, il faut le convoquer, ne serait-ce que pour mieux l'évacuer.
Ou le révoquer, oui. Et alors, dans une dissertation, on dit souvent, enfin on dit d'ailleurs, c'est même le credo ou le confiteor des dissertations, il faut une problématique, il faut un fil rouge qui gouverne l'ensemble de la démarche. Comment y parvient-on ici? Et au fond, quelle est la question à laquelle il faudra s'attacher à répondre autant que possible, Alexandre Larguet?
En plus de la notion même, l'art, il y a ce verbe, évidemment, « servir », qui donne l'idée du fil rouge dont vous parlez. Quelque chose sert dans la mesure où on y recourt pour autre chose qu'elle-même. Je me sers d'un stylo en vue d'écrire. Donc le stylo n'est pas à lui-même sa propre fin. Donc ce sujet, finalement, nous fait nous interroger sur le rapport moyen-fin. Je pense qu'on tient là le fil rouge par lequel on peut construire un plan correct. L'art est-il moyen de quelque chose? De quelle chose est-il le moyen? Et enfin, peut-on considérer que l'art soit à lui-même sa propre fin?
Si vous posez la question dans le plan « l'art est-il moyen de quelque chose et de quoi est-il le moyen », est-ce que la deuxième partie ne présuppose pas la première, au fond? Est-ce qu'au fond, quand vous posez la question de savoir si l'art est le moyen de quelque chose, vous n'êtes pas certain d'emblée d'y répondre favorablement?
Oui, parce qu'on présuppose que dans la mesure où il existe, où il est d'ailleurs étendu sous des formes multiples et depuis très longtemps, c'est qu'il doit bien y avoir une raison pour lui d'exister. Alors que cette raison soit de type utilitaire, utilitariste, c'est à la dissertation, enfin c'est à l'élève qu'il appartiendra de le montrer. Mais en tous les cas, je pense qu'on peut présupposer une telle chose. Si une chose existe, perdure, est faite depuis si longtemps, et en toute civilisation, c'est bien qu'elle doit avoir une raison. À défaut d'avoir d'ailleurs
une utilité. Alors, et quelle est la question ou la problématique qui gouvernerait ces trois parties? Donc, l'art est-il le moyen de quelque chose? De quoi est-il le moyen? Et l'art peut-il être à lui-même sa propre fin?
On a coutume de dire aux élèves qu'il faut qu'ils énoncent d'abord la réponse qui leur semble la moins élaborée, c'est-à-dire celle qui viendrait à l'esprit du plus grand nombre d'individus, qu'on énonce comme étant la doxa. En général, moi, il me semble que ce qu'on pourrait d'abord avancer, c'est l'idée que l'art sert à faire des œuvres belles, avec une réserve.
Non, juste, ça, vous rentrez dans le corps du sujet, là.
Oui.
Hein. Là, oui, non, c'était juste en amont, pour rester encore sur l'introduction, d'accord. Parce que c'est une étape cruciale, hein, et on ne le dit pas assez, c'est une étape très importante pour les élèves. Dans l'introduction, s'il fallait écrire une question au feutre rouge, au fond, hein, ou mentalement au feutre rouge, une question qu'on doit avoir obsessionnellement sous les yeux, parce que c'est la question à laquelle il faut répondre, et cette question ne peut pas être le sujet lui-même. Ça doit être le sujet une fois retravaillé.
Une fois que le problème, examiné.
Voilà. Le problème, au fond, comment est-ce que vous le formuleriez pour des élèves?
On peut demander quelle est la singularité de l'art, ou quelle est sa spécificité, c'est-à-dire ce pourquoi exactement il est fait, et qui le distingue d'activités voisines avec lesquelles on pourrait le confondre.
D'accord, donc c'est la question de la singularité de l'art.
Oui,
D'accord. Et donc, à partir de là, le plan, c'est l'art est-il le moyen de quelque chose ? De quoi l'art est-il le moyen ? Et l'art est-il à lui-même sa propre fin ? Est-ce que, Alexandre Larguier, avant d'entrer dans le détail de la dissertation, on ne pourrait pas vous objecter le fait que, en vous demandant ce qu'est la singularité de l'art, vous posez une question qui en elle-même n'est pas un problème ? C'est-à-dire qu'au fond, ou plus exactement, c'est un problème qui n'apparaît pas à première vue. Est-ce qu'il n'y a pas, dans la construction d'une problématique, la nécessaire manifestation d'une tension entre deux termes, au fond, entre le régime de l'utile et le régime de l'artistique, précisément, avec la figure de l'artiste maudit qui sert à rien et qui est pourtant plus utile que les choses utiles. Je ne sais pas, hein, je vous demande.
On pourrait s'en servir comme accroche. Moi, je crois que c'est un problème qui est... qui est un problème vécu, pour le coup, et incarné, justement, dans ce qu'on entend dire de l'art, notamment chez des gens qui n'ont pas forcément de culture artistique. Alors, en même temps, on n'est pas qu'une culture artistique, il faut se la faire, et peut-être le rejet qui caractérise les jugements négatifs qui ont trait à l'art, notamment l'art contemporain, participe-t-il de cette culture qui se fait ? Mais c'est un problème tout à fait concret. Quand on présente des œuvres d'art à des élèves, tantôt ils disent « c'est beau, elle est belle ». Quand on leur demande pourquoi, c'est souvent parce qu'ils imaginent que c'est une œuvre qui a pris du temps pour être faite, comme on le dirait d'un produit artisanal. En revanche, quand on leur montre quelque chose qui n'est pas beau à leurs yeux, ou pas agréable, comme on y viendra par la suite, eh bien ils ne trouvent pas que ce soit de l'art. Donc le problème est présent, je dirais, dans la réception de l'art, qui pose problème, manifestement.
C'est le malentendu qu'il y a entre la question de savoir si on parle de la Joconde ou bien de Mona Lisa.
Tout à fait.
La Joconde n'étant pas Mona Lisa, étant aussi autre chose. Allons dans le corps du sujet, maintenant qu'on a le plan, la problématique. Petite question pratique. Est-ce qu'on commence la première partie en formulant la question qui gouverne toute la première partie ? Est-ce qu'on situe cette question dans le corps de l'introduction ? Est-ce que dans l'introduction, l'énoncé de la problématique suffit ? Qu'est-ce que vous feriez, vous ?
Bon, moi je conseille, pour que ce soit bien clair au niveau de l'introduction, rapidement, dans un premier temps d'énoncer ce qui va de soi, dans un second temps de montrer ce qui fait problème, c'est-à-dire avoir une approche qui est plus élaborée, plus questionnante. Une fois qu'on a énoncé ces deux points, on est en mesure de formuler une problématique, puisqu'on a fait émerger un problème, qui peut prendre la forme d'une question ou pas. Après quoi, on annonce le plan.
Dans l'introduction.
Dans l'introduction.
D'accord.
Ensuite, l'entame d'une partie... Je ne conseille pas spécialement de formuler une question au sens d'interrogation, parce que les élèves ont souvent quelques maladresses à bien le faire. Et questionner n'est pas forcément poser des questions. Donc moi, je propose aux élèves plutôt d'énoncer l'idée directrice de la partie qu'ils entament. Ça peut prendre ou ne pas prendre la forme d'une question.
Alors, élève Larguier, quelle idée directrice pour la première partie ?
Pour la première partie, ce serait de répondre que l'art sert à produire des œuvres belles. Pourquoi cette idée directrice ? Parce qu'elle permet d'abord de distinguer clairement l'art de l'artisanat. Ensuite, elle permet également de questionner la beauté avec ce danger. Toutefois, on ne peut pas ne pas évoquer la beauté dans un sujet sur l'art. C'est très difficile. Toutefois, il faut se méfier et ne pas faire de hors-sujet et partir sur la question de la beauté, glisser sur la beauté, hein, qui n'est pas explicitement appelée par l'énoncé. Donc je partirai cette idée que l'art sert à produire des œuvres belles, distinguant par là la production artistique ou la créativité de la production, de la fabrication artisanale en général, en indiquant toutefois qu'elles se sont confondues. Historiquement, elles se sont confondues. Notamment dans le contexte grec antique.
On pourrait aller en amont de la question elle-même et se demander si la production d'œuvres belles est en elle-même utile. Est-ce qu'on fait œuvre utile quand on produit de la beauté ?
Alors, c'est une question que j'ai réservée pour la fin de la première partie.
Autant pour moi.
Qui me permettra de rebondir, puisqu'effectivement, le fait de produire des œuvres belles ne répond pas à quoi cela sert-il de produire des œuvres belles.
Donc, venons-en peut-être. Alors, est-ce que dans cette partie, vous revenez sur la distinction entre l'art et l'artisanat ou pas ?
Oui. Alors, j'évoque d'abord, non pas la distinction, mais le rapprochement qu'on peut faire, avec une référence à Aristote. Donc, c'est au livre 6 de l'Éthique à Nicomaque, dans lequel Aristote dit que « est art tout agir réglé ». parfois, il parle aussi d'agir correct.
Tout art est une disposition accompagnée de raison et tournée vers la création.
Voilà.
Ça, c'est dans l'Éthique à Nicomaque. C'est le livre 6e, le chapitre 4.
Et donc, je pars de ce rapprochement qu'il opère. Enfin, ce n'est pas un rapprochement, puisque le rapprochement supposerait que ce soit deux choses distinctes, mais de cette identité de fait, de pensée, en tous les cas, entre la création artistique et la production en général.
Et donc l'artisanat, au fond.
Et l'artisanat, qui participe, mais on peut ne pas l'évoquer, en tous les cas pour la dissertation, qui participe du domaine du contingent.
Quelle différence y a-t-il ? Alors, le domaine du contingent, qui est implicitement donc, à l'œuvre dans ce que vous dites, qui, chez Aristote, relève de l'idée que tout ce qui est en dessous de l'orbite lunaire est mêlé de matière, de hasard, oui. Et donc de contingence, et donc aussi de liberté, d'ailleurs.
Tout à fait.
Mais ça, c'est une autre histoire. On est
hors sujet, mais... En même temps, on pourrait s'en servir, puisque le jugement qui veut que l'art ne serve à rien, quand il se veut négatif, justement, part de cette idée de contingence. C'est contingent, donc on peut s'en passer, comme on pourrait se passer, et du désir, et de la liberté, et de l'art. Mais j'y reviendrai.
Et des règles de comportement.
Et des règles, auquel cas il n'y aurait plus d'humanité, d'ailleurs.
Comme on pourrait se passer de l'humanité. revenons à nos moutons artistiques. La différence entre l'art et l'artisanat vous permet donc, puisqu'on est au début de la première partie, de singulariser, au fond, le régime des beaux-arts, c'est-à-dire de distinguer l'artisan de l'artiste, comme on dit. Mais dans quelle mesure, avant d'opérer cette distinction, dans quelle mesure est-ce qu'on peut effectivement situer cette distinction ? Au fond, un artisan qui fabrique des meubles en osier, qui les fabriquerait excellemment, ou qui produirait des chaussures pour les porter, et non pas pour les vendre, qui serait dans la valeur d'usage plus que dans la valeur d'échange, quelle différence y a-t-il, ou un grand cuisinier, dont chaque plat est unique, quelle différence y a-t-il entre le cuisinier, le chaussetier, ou bien celui qui confectionne des sièges en osier, et le peintre ou le tragédien ?
L'un vise prioritairement le service que peut rendre
l'utilisation qu'on peut
l'utilisation. On demandera à un menuisier, avant qu'il ne fasse un beau lit, ou en une belle matière, ou d'une belle façon, on demandera qu'il fasse effectivement un lit, c'est-à-dire un ensemble à une certaine hauteur, relativement stable, qu'il permette de dormir de manière confortable, de se reposer, etc. Donc il faut qu'il remplisse d'abord la condition pour laquelle il est ce qu'il est ou il fait ce qu'il fait.
Donc l'ordre des priorités est celui-là, c'est-à-dire que l'utile l'emporte sur la beauté.
Oui.
On ne dort pas dans un tableau.
Tout à fait. Ce qui n'exclut pas de dormir dans un tableau, c'est-à-dire de trouver, combiner dans l'œuvre d'art les deux critères, comme on pourra le voir par la suite, notamment dans l'architecture, de manière assez flagrante.
Donc on peut admirer un lit comme on peut dormir dans un tableau, mais ça c'est une autre histoire. C'est la troisième partie.
C'est la troisième partie, essentiellement.
Alors continuons, donc ça on a le premier élément, ensuite.
Ce sont deux activités qui ont été associées, qui se mêlent historiquement, dans la tradition philosophique, et cependant, il y a quand même eu une nécessité de les distinguer, chez Aristote lui-même d'ailleurs, si on voulait rester chez Aristote, on pourrait comparer ce qu'il en dit dans l'Éthique à Nicomaque, de ce qu'il dit de la création poétique dans la poétique d'Aristote, où là est envisagé l'art en lui-même, c'est-à-dire comme activité qu'aucune autre activité ou à laquelle aucune autre activité ne ressemble.
Juste encore une question, Alexandre Larguier, est-ce qu'un élève qui n'a pas Aristote en tête, mais se posant quand même le problème, avec pertinence, choisit d'illustrer ce problème en distinguant un artisan d'un artiste, même un artisan d'un artiste contemporain, ou bien en prenant un exemple qui lui est plus incarné, qui n'a pas la noblesse d'un chapitre de l'Éthique à Nicomaque, mais qui en même temps dit la même chose. Si vous êtes correcteur, est-ce que ça vous convient ?
Oui, tout à fait.
Bon, c'est important de le rappeler aussi.
Bien sûr.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'étape obligée, il n'y a pas d'auteur obligé dans une
pas.
Dissertation. Voilà.
Non, c'est vrai qu'on a coutume, parce qu'on vit dans un univers de livres et de références et de lectures et d'auteurs, de penser avec les auteurs. Mais on peut tout à fait penser sans également. Je ne crois pas qu'on puisse avoir une culture philosophique sans avoir lu les auteurs, mais on peut penser sans les auteurs. Nous, on s'y réfère beaucoup en tant qu'enseignants. Les élèves peuvent tout à fait réussir une très bonne dissertation. Ça dépend peut-être des séries ensuite. Quand on a 8 heures par semaine ou 2, c'est pas la même chose. Mais quasiment avec très peu de références. Donc il n'est pas nécessaire de se référer à Aristote. D'ailleurs, sur le sujet, ce que pourrait dire un élève qui n'aurait pas son Aristote, ce serait justement si l'art existe et que par ailleurs existent d'autres types d'activités, à quoi cela sert-il que quelque chose comme l'art existe ? C'est-à-dire, qu'est-ce que nous amène spécifiquement l'art ? Ou pour le dire autrement, quel besoin l'art comble-t-il ? On présuppose qu'il en comble un, en même temps, s'il n'en comblait pas, l'activité qu'est la création artistique ne serait pas ce qu'elle est, c'est-à-dire, venant des origines jusqu'à nos jours, s'étant complexifiée, étant très présente, etc.
Et de sorte que si on en vient, à partir de la question de l'artisanat, à la question de la beauté, via la beauté, on a un critère de distinction objectif entre l'artiste et l'artisan.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, le problème de la beauté, comme on l'a dit, c'est qu'il ne faut pas glisser sur cette notion-là. Malgré tout, on ne peut pas ne pas l'évoquer, me semble-t-il. Il faut vite l'évoquer et vite en revenir. Bon. On pourrait dire que, finalement, l'art, au sens de création artistique, crée des œuvres belles et préciser de suite que l'œuvre belle n'est pas du même acabit que les beautés qu'on peut trouver qui n'ont pas été produites par l'art, notamment les beautés naturelles, etc. Et j'ai songé à Kant. Kant, on peut s'y référer par deux aspects qui, tous deux, sont dans la critique de la faculté de juger. C'est le paragraphe 7, d'une part, où il distingue l'agréable et le beau, et le paragraphe 16, où il distingue ce qu'il appelle la beauté libre et la beauté adhérente.
Ouais.
Sur le paragraphe 7, quel intérêt y a-t-il de convoquer la distinction agréable et beau pour le sujet et pour l'idée directrice de la partie ? On peut montrer en la convoquant qu'en fait, l'art ou l'œuvre d'art est jugée différemment de la façon dont on se rapporte
ordinairement à du papier peint.
Du papier, voilà.
Ouais.
Du papier...
Je pensais du papier peint, c'est-à-dire que le papier peint était agréable à l'œil,
voilà.
La Joconde l'est différemment.
Tout à fait. Donc la distinction qu'établit Kant entre agréable et beau, c'est ça, c'est que l'agréable est ce qui sied à mes goûts, ce qui agrée mes sens, ce qui flatte quelque part mes aspirations. D'ailleurs, on retrouve l'idée que le rejet qu'on peut éprouver devant une œuvre d'art, si on le questionne, peut être intéressant pour comprendre quel est le ressort de l'art. Puisque là, on est vraiment dans une problématique kantienne. Donc l'agréable, c'est ce qui flatte mes sens, et le beau est ce qui est considéré en soi, indépendamment de mes attentes ou de mes prédispositions. Si bien d'ailleurs qu'une œuvre peut être désagréable et cependant belle. Le bœuf écorché de Rembrandt.
Guernica.
Guernica ne sont pas des choses agréables forcément à voir, pas autant que la Vénus de Botticelli. Et pourtant, ce sont des œuvres d'art.
De sorte que la beauté n'est pas toujours, pour rester encore un instant sur la beauté, la beauté n'est pas toujours la représentation d'une chose belle, mais la belle représentation d'une chose.
Tout à fait, bien sûr. Alors, sur la beauté, il ne faudrait pas trop s'attarder, mais on peut aussi évoquer l'idée qu'elle peut venir par bien d'autres aspects que l'ordonnancement, matériel ou sensible, la palette des couleurs d'un peintre, etc. Ce que notera Paul Valéry, par exemple, quand il réfléchira au beau. Questionnant les avant-gardes, il dit qu'on a perdu le sens du beau, c'est là son jugement, et qu'on est dans une beauté ou dans un art qui cherche le choc. Et il a ce mot très dur pour quelqu'un qui est finalement néoclassique, bien qu'il soit progressiste dans la poésie. Il dit que la beauté est une sorte de morte. Donc, simplement pour dire au passage que les déchirements sur la beauté existent aussi au sein même de l'art. C'est-à-dire que les artistes n'ont pas la même définition ou la même approche de ce que doit être la beauté et par conséquent de ce que peut être l'art.
Ce qui rend incomparablement problématique d'ailleurs la question d'un progrès en art. Progressons dans la dissertation,
oui,
puisque
dans la dissertation.
Il faut aller à la fin de la première partie. On s'était dit tout à l'heure, Alexandre Larguet, que vous finiriez la première partie sur la question de savoir si au fond on était dans l'utilité, quand l'utilité était de produire de la beauté justement.
Donc on n'est pas dans l'utilité et l'intérêt d'être passé par Kant, donc on pourrait tirer l'acquis de cette référence, c'est qu'il thématise la notion de désintérêt dans le rapport à l'œuvre d'art. Donc moi j'aurais mis en vis-à-vis dans sa dissertation le désintérêt et l'inutilité. Donc réfléchir un peu plus en avant, un peu plus profondément sur le sens du verbe « servir ». Qu'est-ce que c'est que « servir » ? Et donc je reviens à ce que j'ai énoncé précédemment. L'art ne sert pas, si on entend par « servir », quelque chose à quoi on recourt comme moyen en vue d'atteindre une fin, notamment ici, une fin qui nous concernerait en matière d'agréable chez Kant. C'est-à-dire quelque chose qui nous plairait à nous, qui flatterait nos goûts, nos aspirations, etc. Donc ce qu'on comprend à la fin de cette partie-là, c'est que l'art et l'œuvre d'art nous mettent dans des dispositions qui sont tout autres que celles qui caractérisent le rapport intéressé au réel.
C'est ce que Kant appelle le désintéressement, en l'occurrence.
Tout à fait.
Ce sont de drôles de types qui vivent de leurs plumes ou qui ne vivent pas, c'est selon la saison. Ce sont de drôles de types qui traversent la brume avec des pas d'oiseaux sous l'aile des chansons. Leur âme est en carafe sous les ponts de la Seine, leur sous dans les bouquins qu'ils n'ont jamais vendus. Leur femme est quelque part au bout d'une rengaine qui nous parle d'amour et de fruits défendus.
Alexandre Larguier est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance ce lundi au commencement de la première des deux semaines que les Nouveaux Chemins consacrent traditionnellement au bac philo. À quoi sert l'art? C'est le sujet du jour.
Ils sortent dans la rue leurs mots pour prendre l'air. Ils ont des chiens parfois compagnons de misère et qui lèchent leurs mains de plumes et d'amitié avec dans le museau la fidèle lumière qui les conduit vers les pays d'absurdité.
Alexandre Larguier, avant d'aller dans la deuxième partie, juste un commentaire sur cette chanson sublime, Les Poètes, de Léo Ferré. Ces drôles de types hein, qui ne servent à rien. Michel Houellebecq dira plus tard que le poète est un parasite sacré, qui ne servent à rien, qui sont inutiles, qui ont... ils ont des paradis que l'on dit d'artifice, ils n'arrivent même pas à nourrir leurs chiens. Ce sont vraiment les inutiles de la société ou les incompris de la société. Or, évidemment, Ferré se compte au nombre de ces inutiles et écrit une chanson magnifique qui peut en elle-même, d'ailleurs, avoir son sens, voire son utilité.
Tout à fait, tout à fait. Oui, c'est une constante, hein, la question de l'utilité, c'est-à-dire elle est dépendante, cette question de critères. Qui peuvent être l'objet de définitions claniques ou en tous les cas majoritaires, mais la majorité n'est pas forcément raison aussi.
Au fond, au-delà de l'utilité, il y a peut-être ce qui est indispensable, c'est-à-dire plus qu'utile.
Tout à fait. Au-delà de l'utilité, il y a le nécessaire. Et on peut être dans une nécessité qui apparaisse comme inutile aux yeux de la plupart.
Allons vers la deuxième partie. Donc, comment vous enchaînez la première et la deuxième partie? C'est une question que je pose en général aux enseignants. Comment est-ce que vous espérez, vous, en lisant une copie, voir l'enchaînement? Est-ce qu'au fond, la première partie doit s'arrêter sur un problème qui justifie ensuite que la deuxième partie infléchisse le propos? Est-ce que vous êtes plutôt thèse-antithèse? Comment est-ce que vous justifiez l'enchaînement de la première et la deuxième partie?
Je pense que le corps d'une partie doit être le même pour à peu près pour chacune des parties, idée directrice, illustration, acquis de l'idée par rapport à la question de départ et insuffisance de l'idée. Après quoi, on bascule vers une transition. Alors, si la transition...
Il faut bien savoir que toute option, toute ligne a ses insuffisances qui justifient qu'on en aborde une autre.
Tout à fait. Alors, c'est pour répondre à votre question plus précisément, comment passe-t-on d'une idée à une autre ou à son contraire? Non pas en imposant le contraire, en l'amenant artificiellement, mais en poussant tellement à bout la réflexion sur une idée qu'elle finit par d'appeler elle-même autre chose, parce qu'elle s'avère insuffisante.
Et c'est là qu'on entre dans la nécessité, justement.
Oui, c'est très hegelien, finalement, comme procédé. Hein, c'est pas nous qui amenons la contradiction, mais c'est la contradiction qui advient parce qu'on mène à son terme une réflexion sur une idée donnée.
Et donc, le problème sur lequel on a fini la première partie, qui était finalement le statut de la beauté ou l'utilité, la question de savoir si c'était utile de servir à produire des œuvres belles, en quoi ce problème justifie-t-il le passage à une deuxième partie et quel est son propos?
Si on reprend la question, à quoi l'art sert-il? On constate qu'on a vu qu'il pouvait servir à créer des œuvres belles ou des choses belles. Cependant, on ne répond pas encore à la question. Il faudrait se demander maintenant, mais à quoi cela sert-il de créer des choses belles? On a dit finalement en quoi l'art consistait en lui-même, mais on n'a pas dit à quoi est-ce qu'il servait, de quoi est-ce qu'il pouvait être le moyen d'autre que lui. Donc on a ici, dans l'idée même qu'on a annoncé et qu'on a étudié la possibilité de ce renversement qui amène à la seconde partie.
C'est-à-dire donc, de quoi l'art est-il le moyen ? Et l'art voilà. est-il le moyen d'autre chose que lui-même ?
Tout à fait, c'est-à-dire cette seconde partie-là, je me propose moi dans cette seconde partie de considérer non pas l'art en lui-même, mais l'art du point de vue de ce qu'il peut apporter. Alors de ce qu'il peut apporter à quoi ou à qui, nous allons le voir.
L'art ne doit pas simplement se servir de signes, mais donner aux idées une existence sensible qui leur corresponde. Là, on est chez Hegel, à qui on a bien reproché d'ailleurs d'avoir subordonné finalement l'art à l'intelligence, d'avoir fait de l'art un des moyens de oui. l'intelligence et de le situer dans une utilité qui, du coup, le rend caduque à un moment quand l'intelligence ou la religion accomplissent mieux que lui les tâches qu'on lui assigne.
Oui, les trois modes de manifestation de la spiritualité apparaissent comme trois moyens dont le problème pour l'art est qu'ils sont hiérarchisés les uns par rapport aux autres. Donc l'art est dépassé à deux reprises, et par la religion et par la philosophie. Dépassement qui néanmoins, comme on le sait chez Hegel, englobe ce dont elle est le dépassement. C'est-à-dire que ce n'est pas une négation, c'est une forme d'incorporation. L'art est incorporé au religieux, et tous deux, dans ce qu'ils apportent de singulier, sont incorporés et dépassés par le cheminement philosophique. Donc finalement, ce n'est pas non plus une évacuation pure et simple de l'art, mais il est vrai que cette idée qu'il n'est d'intérêt que parce qu'il sert à quelque chose, peut-être... apparaître contestable.
Alors allons-y, puisqu'on est dans cette option là, dans cette hypothèse hein, d'un art utile à autre chose que lui-même. Comment commencez-vous cette partie ?
Alors cette partie, on peut la commencer tout en restant dans la même idée, c'est-à-dire l'art et production de choses belles. Il ne faut pas perdre de vue ce qu'on a déjà fait, le chemin qu'on a déjà parcouru. La question qu'on peut se poser est celle-ci, si l'art est production de choses belles, pourquoi avons-nous besoin de l'art pour produire ces choses ? Est-ce à dire que les autres facultés qui sont les nôtres ne permettent pas d'avoir affaire à la beauté ? C'est la question que je poserai et je vais la traiter, je me propose de la traiter tout particulièrement en me référant à Nietzsche. Parce qu'il y a chez Nietzsche, je pense, de manière très flagrante, un service que rend l'art. Il y a un service, l'art... et l'artiste, qui sont des contre-figures de l'intellect ou de l'intellectuel, aux côtés de l'enfant et du vous, chez Nietzsche, rendent un service. Et ce service, ils le rendent d'abord à l'intelligence. Il la rappelle à l'ordre, pourrait-on dire. Ils le disent
Ou il la rappelle au désordre.
Ou au désordre, oui, tout à fait. Il la rappelle à l'ordre en la ramenant au désordre essentiel. Donc la fonction de l'art pourrait être finalement de contrecarrer les aspirations intellectuelles ou intellectualistes dès lors qu'elles nous font perdre pied dans le monde, dans le réel.
Quand Nietzsche dit « nous avons l'art pour ne pas périr de la vérité », comment entendez-vous cette phrase ? Parce qu'il y a toute une série d'interprétations possibles d'une telle phrase. On pourrait considérer que l'art est un maquillage au fond de la vérité. On peut considérer aussi que la vérité est finalement plus mensongère que le mensonge lui-même, ce qui est le cas pour Nietzsche. On considère que croire qu'on détient la vérité, c'est se mentir à soi-même, et que donc l'art, en ce sens, nous fait vivre là où la vérité nous fait mourir à la réflexion. Comment comprenez-vous cette idée que nous avons l'art pour ne pas périr de la vérité ?
Chez Nietzsche, la vérité est un problème qui est vu par un tout petit bout. Il n'y a de vérité dès lors qu'on isole quelque chose du réel. Par conséquent, je pense que ce qu'il veut dire, c'est que l'art nous permet d'élargir notre vision du réel, qui n'est dès lors plus une simple vision, comme les celles qui croient qu'il y a du vrai et du faux. Nietzsche préconise d'en finir avec ce monde
binaire.
D'ailleurs, non seulement dans le domaine de la connaissance, avec le vrai et le faux, mais encore dans celui de la morale. Et je pense que ce qu'il veut dire, nous avons l'art pour ne pas périr.
Où le vrai correspondrait au bien et le faux correspondrait au mal.
Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs des problèmes qui sont connexes. Il nous invite à élargir, c'est-à-dire périr de la vérité ou périr par la vérité. Cela veut dire mourir d'avoir vu si peu de choses, quoi. D'avoir éprouvé si peu de choses. Et notamment de n'avoir pas su concilier l'esprit ou la vie spirituelle et celle du corps. Non pas seulement dans le sens des plaisirs, mais dans le sens de l'épreuve. De l'épreuve du corps vivant, de l'épreuve de la vie par son corps, qui sont corps qui fait partie des thèmes que, que chérit tout particulièrement Nietzsche.
Alors restons dans cette deuxième partie. Donc on a le commencement. Vous servez de Nietzsche donc pour expliquer comment l'art rend à l'intelligence le service de la renvoyer à un désordre qu'elle a tendance à oublier. Au-delà de cet argument de Nietzsche, où allez-vous? Où est-ce que cet argument vous conduit?
Alors d'abord, on peut préciser cet argument rapidement par une double référence qu'on pourrait faire. D'une part, celle au Gai Savoir, au paragraphe 107, dans lequel Nietzsche énonce que l'art nous sert à être sage, c'est-à-dire nous sert à bien continuer à être sage. Nous avons besoin de folie, dit-il, pour pouvoir persévérer dans notre sagesse. Donc il apparaît bien ici comme un contrepoids à l'intelligence et se pose explicitement posé la question de ce à quoi il sert. Ce serait une référence possible. La seconde à laquelle j'avais songé, avant de dire en quoi est-ce qu'elles nous font avancer, serait une référence à la naissance de la tragédie, dans laquelle Nietzsche s'en prend avec une violence assez forte à ceux qui l'accusent de socratisme esthétique, c'est-à-dire ceux qui n'ont précisément pas su voir dans l'art la singularité qui est la sienne et qui l'ont ramené à des intérêts qui relèvent de la raison. Donc le socratisme esthétique que Nietzsche critique, c'est le fait de ramener l'art à la justesse, au bien, au mal, au vrai, au faux, et donc de le travestir, finalement.
De sorte que pour Nietzsche, là, vous vous servez vraiment de Nietzsche, à la fois pour dire que l'art fait à la sagesse le cadeau de la folie, c'est le paragraphe 107 du Gai Savoir, et pour rappeler que l'art sert précisément à nous débarrasser de la mise en raison du monde, de la rationalité qui est celle de Ripide, de Socrate, au fond de la dialectique. Donc vous vous servez de Nietzsche pour dire que l'art ne sert à rien.
Oui, oui, l'art ne sert à rien. Ou alors, du moins, il ne sert pas comme la raison sert, mais il rend tout de même ce service de montrer qu'il n'y a pas que la raison. Donc je crois que l'acquis qu'on peut tirer de la référence à Nietzsche, c'est que la perception ou la pensée du monde par le seul prisme de l'intelligence rationnelle, est insuffisante.
Est-ce qu'il ne faut pas distinguer ici la question du service de la question de l'utilité? Quand on dit « je vous rends service, je ne vous suis pas forcément utile », est-ce qu'au fond il n'y a pas une distinction ici à opérer? Est-ce qu'au fond Nietzsche ne théorise pas un service que l'art nous rendrait, mais un service que l'art nous rendrait presque à son insu, presque malgré lui, en tout cas hors du régime de l'utilité? L'art nous sert ou nous rend service d'une autre manière que la bouteille d'eau qui est sur la table nous rend service dans la mesure où elle nous permet de nous désaltérer.
C'est le problème, effectivement, et c'est, je pense, ce qui va servir de point de bascule vers une troisième partie par la suite. C'est-à-dire qu'il y a chez Nietzsche, même si l'art est fortement présent, il y a aussi une forte prégnance de la vocation philosophique qui dépasse l'art. Peut-être n'y a-t-il d'art vraiment que chez ceux qui le pensent peut-être, mais surtout le pratiquent. Je pense, pour citer à nouveau Paul Valéry, lorsqu'il thématise les thèmes qui lui sont chers dans Ego Scriptor, etc., il mène sur l'art une réflexion qui ne détruit pas l'art en tant qu'art. Et effectivement, oui, l'utilité de l'art chez Nietzsche pourrait être vue comme un dépassement de l'art.
Alors, le temps passe pour nous aussi. Hein. Il y aurait beaucoup à dire sur la question du dépassement nietzschéen de l'art. Il y aurait beaucoup à discuter là-dessus. Mais le temps passe pour nous aussi. Il nous faut passer aussi à la troisième partie, c'est-à-dire il nous faut enchaîner les parties. Avant d'entendre la troisième partie, un cadeau pour vous, Alexandre Larguier, et pour nos auditeurs. C'est une voix qui ne vous sera pas familière, ou plus exactement, c'est la voix de Bergson lui-même. C'est l'unique extrait qu'à ma connaissance, nous disposions de Bergson, lisant un texte qui n'est pas sans rapport avec le propos de votre troisième partie. Écoutez.
Quel est l'objet de l'art? Si la réalité venait frapper directement nos sens et notre conscience, et si nous pouvions entrer en communication immédiate avec les choses et avec nous-mêmes, je crois bien que l'art serait inutile. Ou plutôt que nous serions tous artistes, car notre âme vibrerait alors continuellement à l'unisson de la nature.
Nos yeux, aidés de notre mémoire, découperaient dans l'espace et fixeraient dans le temps des tableaux inimitables. Notre regard saisirait au passage, sculpté dans le marbre vivant du corps humain, des fragments de statues aussi beaux que ceux de la statuaire antique. C'est un texte sublime, c'est dans le Livre du Rire. C'est au milieu du Livre du Rire de Bergson, dans la troisième partie. C'est ce fameux texte qui s'appelle « Quel est l'objet de l'art ?» dans lequel Bergson montre bien que si nous savions sentir les choses, nous n'aurions pas besoin d'art et qu'au fond, l'art est un exhausteur de goût.
Oui, tout à fait. Alors Bergson est l'auteur que je convoquerai dans ma troisième partie. Comment y vient-on à cette troisième partie? Donc on a vu... que chez Nietzsche, l'art servait, mais qu'en tant qu'il servait, comme vous l'aviez remarqué, il pouvait disparaître hein, au profit de ce à quoi il sert. Et peut-être convient-il maintenant de poser la question de la singularité de l'art considéré en lui-même, c'est-à-dire quel est strictement l'art considéré en soi. Peut-on le percevoir indépendamment de la question de l'apport ? Quelle que soit cette question. Bergson s'inscrit dans cette perspective-là. Il n'est pas le seul, il y a aussi Heidegger, mais qui vient après Bergson, dont je parlerai. Et finalement, la question qu'ils posent tous deux vis-à-vis de l'art est une question qui concerne aussi bien la vie de l'esprit, c'est-à-dire qu'ils voient dans l'art une parenthèse essentielle de réalisation de soi, pas du tout au sens managérial du terme qui est dominant aujourd'hui. Il ne s'agit pas de réussir ou d'avancer, mais de s'épanouir en tant qu'individu, en tant qu'être pensant. Ce que le rapport au réel ordinaire, à notre quotidien, pour dire simplement, ne permet pas. Ne permet pas parce que englué, happé dans des choses
parce que vivre consiste à agir et agir consiste à choisir. Hein. Voilà. Et ça, on est chez Bergson, il y a vraiment deux niveaux de l'existence. Hein.
Il y a deux niveaux.
Il y a le niveau quotidien où il faut choisir. On prend un billet de train pour aller quelque part. Enfin, on est dans le registre utilitaire hein, pour le coup. Et puis il y a le niveau intime qui vaut à Bergson cette fois-ci de penser les choses indépendamment du besoin qu'on en a.
Distinction qu'il fait aussi en recourant à la conscience et à l'esprit. La conscience qui est concentration, capacité d'action, et l'esprit qui ne vient que par une déprise ou un abandon vis-à-vis du réel ou de ce qu'il nous sommes d'y accomplir. Et je pense que le titre de cette troisième partie pourrait être celui-ci, c'est-à-dire l'art comme une déprise essentielle.
Mais alors c'est une déprise de quoi ? C'est pas une déprise du monde, c'est pas une façon de tourner le dos au monde, au contraire, ce serait plutôt une déprise de soi à ce moment-là.
Une déprise de soi ou la déprise d'un monde, et non pas du monde.
Et le monde ordonné, organisé par nos besoins ou par le règne de l'utilité ?
Voilà, ce serait ce monde-là qu'il conviendrait, non pas peut-être d'abandonner, mais en tous les cas de dilater. Comprendre que ce monde-ci n'est pas le seul. Je crois que l'expérience qu'on vit devant une œuvre d'art, indépendamment de l'approche technique qu'on peut en avoir, est avant tout celle-ci. L'art nous transporte.
Mais alors, où nous transporte-t-il dans ces conditions ? Est-ce que l'art, tel que vous le concevez avec Bergson, vous l'envisagez comme l'occasion de nous éloigner du réel, ou au contraire de renouer avec une réalité que dissimule la vie quotidienne ?
Il s'agit effectivement de renouer avec une réalité que dissimule la vie quotidienne. Donc l'œuvre est l'occasion d'un retour à l'essentiel et non pas d'une perdition. Il y a d'ailleurs un rapport intéressant à faire au concept de fiction, puisque c'est l'un des aspects de la critique de l'art. L'art ne sert à rien, c'est de la fiction, seul le réel compte, les artistes sont des paumés, ils ne savent pas que faire. On dit d'un élève qui ne sait pas très bien comment faire pour réussir scolairement que c'est un artiste. Donc on a vraiment cette idée de... Qui n'a pas les pieds sur terre, de l'art comme d'un décrochage d'avec le réel. Or, ce décrochage est le décrochage vis-à-vis d'une représentation du monde à laquelle le monde ou le réel, hein, prenons ces deux mots comme synonymes, ne se réduit pas. Donc effectivement, ne pas s'en tenir au monde tel qu'il est ou tel qu'il nous est donné, le monde des pragmatiques, est peut-être l'occasion...
C'est-à-dire le monde des objets. Hein.
Le monde des objets et des tâches que nous avons à accomplir vis-à-vis des objets dont nous sommes entourés. Bon, c'est une réflexion que va reprendre Heidegger également. Donc Bergson et Heidegger illustreraient cette idée que l'art est l'occasion d'un vécu intense, vécu chez Bergson qui n'est pas permis par la réduction du monde au seul prisme de l'intellect. Il y a d'ailleurs un point commun évidemment avec Nietzsche. Et chez Heidegger, la réflexion va encore plus loin dans l'origine de l'œuvre d'art, voilà. Puisqu'il il oppose l'outil à l'œuvre. Donc, c'est un texte qui est fameux de ce point de vue. Il parle de déficience. Et il dit que l'art advient à l'occasion d'une déficience. C'est quand une chose cesse de fonctionner, quand donc elle ne remplit pas ce pourquoi elle est faite ou ce pourquoi on la prend, on l'utilise, que d'un coup, elle nous apparaît pour elle-même.
C'est le principe d'une nature morte. On ne va pas manger la pintade qui est peinte sur un tableau.
Tout à fait. Le principe de la nature morte, c'est de rendre compte, mieux qu'elle ne saurait le faire elle-même, de la pomme qui se trouve dans la coupe.
Alors, on arrive quasiment au terme de cette émission. Il est temps de conclure. Quand bien même la copie est inachevée, je suis dans la situation de l'appariteur qui vous arrache votre feuille alors que vous devez conclure, Alexandre Larguier. En peu de mots, comment construisez-vous la conclusion ? Avec tous les regrets qui vont avec, naturellement, parce qu'on pourrait sur ce sujet parler des heures.
Hein. Oui, on pourrait
parler des heures. Mais c'est aussi, ça fait partie de l'exercice, la frustration qui consiste à ne pas pouvoir aller au bout forcément de son raisonnement le jour de l'épreuve.
La frustration est normale. Et elle est même, je dirais, préférable, dans la mesure où la dissertation n'est toujours qu'un chemin de pensée. Et on ne peut pas prendre tous les chemins. Non. Alors, pour ma part, ce chemin, je le conclurai de deux façons possibles. D'une part, je reviendrai sur l'idée que l'art ne sert à rien, en montrant qu'au lieu de s'offusquer de ce jugement inepte, qui n'a pas de sens, eh bien, on pourrait s'en honorer et dire que c'est précisément là sa valeur. Le fait qu'ils ne servent à rien. Et puis, on peut faire une ouverture également. On conseille aux élèves, lorsqu'ils le peuvent, ce n'est pas une nécessité, mieux vaut s'en dispenser quand la chose ne nous vient pas, d'ouvrir. Ouvrir, ça ne veut pas dire parler d'autre chose, mais parler autrement de ce dont on vient de parler. Et je pense que sur le sujet en question, à quoi l'art sert-il, on pourrait faire deux types d'ouverture. La première, pourrait consister à envisager les domaines connexes de l'ingénierie et de la création artistique. Ça pourrait se faire par le biais de l'architecture, voire même de certains architectes. Auguste Perret, par exemple, a été à la fois ingénieur et artiste. Le Corbusier, enfin, on pourrait s'attarder. Ou parler encore du design industriel, ou de l'art déco, chose que je n'ai pas abordée, mais qui montre que les deux peuvent se lier, utilité et art. Et la deuxième ouverture possible, qui, moi, m'est plus chère, serait une ouverture à la poésie, dont Heidegger reconnaît qu'elle est vraiment le lieu d'expression le plus authentique de ce qui peut se penser. Et je voulais donc...
Et dont l'équivalent français, c'est-à-dire René Char, délivre la formule secrète à vos yeux.
Oui, tout à fait. Oui. D'ailleurs, René Char, qui a beaucoup été étudié par Heidegger, malgré des engagements existentiels très différents...
C'est moins qu'on puisse dire. Oui. L'un qui... était résistant. Je laisse l'auditeur deviner de qui nous parlons. Mais alors, donc, voilà. pour conclure.
Pour conclure avec René Char, on pourrait se référer à ce beau texte qu'il écrit qui s'appelle « Sous la verrière » en vue de Georges Braque, dans lequel il dépeint la visite du poète qu'il est, il ne se nomme pas mais c'est lui-même, chez Georges Braque. Et le poète en question, donc René Char, s'étonne de voir comment Braque ne violente pas les choses, ne les force pas à être autres qu'elles ne sont, mais, dit-il, ce sont ces mots-mêmes, acclimate les choses. Comme si finalement, et c'est ce mot-là sur lequel je voudrais finir, acclimater, c'est non pas ramener la chose à soi, mais se mettre à la portée ou à l'écoute de la chose, ce que l'art permet.
Après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur. sans savoir pour qui battait leur cœur. Parfois on change un mot, une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait la 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 la. Longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues.
h 50 sur France Culture, on retrouve tout de suite le journal des Nouveaux Chemins et Adèle Van Red. Bonjour Adèle.
Bonjour Raphaël. Pour être prêt pour l'épreuve de philo au bac, il faut la préparer jusqu'au bout. Et c'est ce que nous vous proposons toute cette semaine avec un journal spécial bac philo qui vous parlera exclusivement d'ouvrages qui sont accessibles et utiles aux lycéens. Aujourd'hui, on reste dans le sujet du jour et on continue à parler d'art avec un livre intitulé tout simplement « Philosophie de l'art ». Bonjour Fabienne Brugère.
Bonjour Adèle.
Vous êtes l'auteur avec Julia Pecker de ce livre sur la philosophie de l'art, sorti il y a peu de temps aux éditions PUF. Alors, disons-le tout de suite, la collection du livre s'appelle Licence Philo, donc il s'adresse en priorité aux étudiants ayant déjà fait un peu de philosophie, mais il me semble, et c'est pour ça que j'ai choisi d'en parler aujourd'hui, qu'il peut tout à fait être utile pour des élèves en terminale, désireux d'approfondir leur cours sur l'art ou sur l'esthétique. Et puis, même si on ne comprend pas tout, ce qu'on retient peut être très utile. Il y a beaucoup d'exemples précis qui sont mobilisables très, très facilement par les étudiants. Alors, on doit toujours définir les termes en dissertation avant de commencer à écrire sa dissertation. On l'a vu dans les mission qui précédait avec Raphaël Antoven. Dans le cas de l'art, et vous commencez comme ça dans votre livre, dans le cas de l'art, l'art est un sujet qui est très difficile à cerner. En tant que sujet théorique, c'est très difficile de définir cette notion-là qu'est l'art. Fabienne Brugère.
C'est une notion très difficile à définir parce que tout d'abord, ça renvoie à des pratiques très différentes. Pratiques de la peinture, pratiques de l'écriture, pratiques de la musique. Donc on a affaire à un objet multiple. Après, on a affaire aussi avec l'art à un domaine qui n'a pas du tout besoin de la philosophie, qui existe de manière totalement autonome. Et donc ça suppose aussi une modestie du philosophe. Or, la modestie philosophique, ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus aisé. Et puis, par ailleurs, en ce qui concerne l'art et en ce qui concerne la possibilité de construire des discours sur l'art, il y a le rôle de la philosophie, mais il y a aussi le rôle de la sociologie, de l'histoire de l'art, de la critique d'art. Bref, tout un ensemble de discours qui parlent de l'art et qui font que ça complexifie l'objet lui-même. Et dans l'introduction, on s'est amusé à ce sujet à employer l'expression de millefeuille. L'art est en quelque sorte pour la pensée un millefeuille. Et je crois que ça, c'est assez juste.
Alors vous avez pointé justement cet aspect de la philosophie de l'art, montrer que la philosophie ne peut pas épuiser l'art en tant que tel, que c'est un discours sur quelque chose et que tout ce qu'on pourra dire d'un point de vue philosophique sur l'art ne pourra jamais, il me semble, complètement restituer ce qu'est une expérience artistique ou expliquer ce qui se situe à l'origine de la création. Alors comment, cependant, sur quelle dimension, sur quel point de l'art en particulier, la philosophie a un mot à dire ?
Disons que la difficulté pour la philosophie, c'est que d'une certaine manière, elle vient toujours après l'art. Il y a les pratiques et puis après, on réfléchit sur ces pratiques. Donc ça crée déjà une difficulté. Alors ce que je dirais après, c'est que la philosophie a essayé à créer un certain nombre de concepts pour essayer de réfléchir sur les pratiques artistiques d'une certaine manière en les fixant dans son propre discours philosophique. Alors, c'est vraiment d'ailleurs de cette manière-là qu'on a construit le livre avec Julia Pecker et en choisissant vraiment la méthode suivante, à savoir on est reparti finalement des grands concepts de la tradition philosophique pour penser l'art, la création, l'œuvre, l'expression, le spectacle de l'art. Et puis, on a tout en déployant comment un certain nombre de philosophes ont pensé ces concepts, eh bien, on a essayé de montrer comment ils coïncidaient plus ou moins avec des pratiques artistiques, alors là, de manière assez libre, c'est-à-dire à la fois vraiment au XVIIIe siècle, par exemple, au XIXe, et puis ensuite aussi dans des pratiques d'art très contemporains, y compris chez des artistes comme par exemple Alain Capro, milieu des années 50, ou encore plus contemporains comme Giuseppe Pennone dans le domaine de l'arte povera. Bref, on a essayé de voir si les concepts de la tradition philosophique étaient opérationnels dans le registre des pratiques artistiques. Et je pense que là-dessus, on a été assez sincère. C'est-à-dire, on a vraiment vu quand ça fonctionne et puis quand à certains moments ça fonctionne pas. Et on a montré en même temps, par exemple, sur la question de l'œuvre, que même si actuellement il y a vraiment une lame de fond de l'art contemporain qui consiste précisément à oublier la notion d'œuvre parce qu'elle avait pris aussi des tours très intimidants, l'œuvre d'art absolu, le chef-d'œuvre, et bien en même temps ce rapport à l'œuvre, il reste quand même toujours un peu comme un spectre ou comme un fantôme. On se débarrasse pas comme ça des concepts de la tradition et puis aussi de l'histoire des arts.
Voilà, de l'histoire des arts et de l'histoire de la philosophie. Puisque ce que vous dites en définitive, c'est que le discours même de la philosophie sur l'art a évolué, a changé. D'ailleurs, je rappelle que la notion même d'esthétique est très récente finalement. Hein. C'est au XVIIIe siècle, je crois, oui, qu'apparaît cette notion-là, que les philosophes commencent à écrire sur l'art.
C'est très intéressant cette notion d'esthétique parce qu'en fait ça naît au XVIIIe siècle. J'aurais presque envie de dire ça naît deux fois. Ça naît une première fois avec quelqu'un d'assez inconnu dans la tradition philosophique qui s'appelle Baumgarten, qui écrit donc en latin une Aesthetica et qui dans cette Aesthetica essaie de penser une science du sensible qui serait une science philosophique et qui pourrait s'adresser au beau, aux œuvres, mais surtout à la rhétorique, ce qui est quand même très, très restreint, et puis donc qu'il soit une science vraiment de la vérité du monde sensible. Et donc ça naît en quelque sorte avec lui, mais ça n'est pas comme un discours qui se rapporte uniquement à l'art. Hein, ça se rapporte avant tout au beau et au sensible. Et puis ça naît, à mon avis, une deuxième fois, en tout cas dans l'esprit de la tradition philosophique, dans ce que nous en avons fait philosophiquement de l'esthétique, ça naît donc une seconde fois avec Kant, dans la critique de la faculté de juger, avec la possibilité de définir non pas tant une esthétique avec un grand E, qu'une expérience esthétique, et donc définir les conditions de possibilité d'un jugement esthétique. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que Kant, en fait, invente, d'une certaine manière, la figure du spectateur de l'art. Et donc la possibilité de concevoir l'art du côté du spectacle, ce qui veut dire ne pas seulement être du côté de la création, du côté de la fabrique de l'art par des artistes, mais être du côté précisément de ceux qui en quelque sorte se rapportent à l'art et déterminer ce que c'est qu'un spectacle de l'art. Alors bien sûr, avant Kant, il y a quelques personnes qui avaient déjà préparé le terrain, qui sont moi des philosophes que j'aime beaucoup, comme David Hume, par exemple, avec tout le travail que David Hume a fait sur le jugement de goût. Mais Kant est vraiment celui qui radicalise cette possibilité pour la philosophie de penser un spectacle de l'art. Et donc l'esthétique, dans ce deuxième mouvement, elle se définit vraiment comme la possibilité de penser l'art du côté d'un spectateur.
Alors je renvoie les auditeurs et les bacheliers également à la conclusion de votre livre, conclusion qui reproduit cette citation là de l'artiste Roger Filloux, l'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Alors bon, je laisse ça comme peut-être allez voir ce que vous en écrivez, vous, Fabienne Brugère, dans ce livre. Il me semble que c'est une phrase qui est intéressante et que si on la déplie, elle contient beaucoup beaucoup de choses. Donc je rappelle le titre de votre livre, c'est Philosophie de l'art. Vous l'avez coécrit avec Julia Pecker et on trouve ça aux éditions PUF. Merci d'être venu en parler aujourd'hui.
Merci.
Voilà, merci à tous. Les nouveaux chemins de la connaissance, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain comme tous les jours de 10h à 11h. On se retrouve aussi sur internet quand vous voulez à la page des nouveaux chemins de la connaissance où je vous invite vivement à télécharger les émissions de la semaine. Vous pouvez aussi écouter en ligne toutes les émissions précédentes et retrouver une bibliographie spéciale Bac Philo, spéciale Épreuve Rennes. Suite demain donc de cette semaine sur le Bac Philo. Après Alexandre Larguier, donc demain nous recevrons Olivier Chapignac, enseignant au lycée de Saint-Avold dans Lorraine, qui se demandera pour vous ce qu'on attend pour être heureux. Et ben on verra ça demain, 10h59 sur France Culture. Dans un instant, Culture Monde, Florian Delorme.